Rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
août 1984, Londres. Bruce Dickinson et Adrian Smith, fébrilement, ne cessent de regarder l'heure qui défile. L'un est chanteur du groupe Iron Maiden, l'autre en est le guitariste principal. Les deux hommes ont propulsé la formation britannique au sommet de sa gloire. Aux manettes vocales depuis le début des années 80, Dickinson est habitué à collectionner les succès. Dès ses débuts, avec l'album The Number of the Beast, sorti en 1982, il a crevé le plafond. Il faut dire que sa voix, son talent pour composer des titres percutants et uniques, tout cela participe à façonner l'incroyable Pat Maiden. Aujourd'hui pourtant, la donne est différente. Le groupe vient de sortir, ce matin même, le premier single de son cinquième album studio. Son titre, Two Minutes to Midnight. 2 minutes avant minuit. Tout un programme. Alors que le jour décline et que, hormis les appels de quelques potes, les musiciens n'ont pas eu de retour officiel, leur patience est mise à rude épreuve. Smith et Dickinson ont composé le titre. Un riff de guitare puissant, des lignes vocales fortes et engagées. Pour eux, le single a tout du tube en puissance. Mais c'est bien connu. Même les meilleurs peuvent se tromper. Et si le parti pris mis en avant par la formation de heavy metal provoquait un tollé chez les fans, heureusement, le duo ne va pas avoir à se torturer l'esprit bien longtemps. Le téléphone, brisant le silence, se met à sonner. C'est leur manager au bout du fil. Hey les gars, vous allez jamais me croire. On pète tous les records avec Two Minutes to Midnight. Le public adore et tous les critiques m'ont promis des articles élogieux. Bruce Dickinson peut souffler. Il faut dire que le message mis en avant dans le morceau lui tient particulièrement à cœur. Two Minutes to Midnight, c'est un morceau qui permet de dénoncer l'idéalisation de la guerre et l'inhumanité grandissante de la population face aux images terribles des conflits et des massacres. Mais c'est pas tout. Iron Maiden a fait le choix de s'attaquer à un symbole bien particulier. Le manager du groupe ne manque d'ailleurs pas de leur faire remarquer. Dites, et autre chose, je sais pas qui a eu l'idée, mais bien joué pour la date de sortie, hein, les gars. Ah, c'est bien senti et tous les médias vont en parler. La date de sortie? Quoi, aujourd'hui serait la date anniversaire d'un événement particulier? Plutôt deux fois qu'une même, oui. Lequel? C'est Dickinson qui, en quelques mots, déchire le voile du mystère. Il y a 39 ans, aujourd'hui même, la bombe nucléaire était lancée sur Hiroshima. Clin d'œil volontaire de la part d'Iron Maiden? Peut-être bien. En tous les cas, le symbole tombe à pic. L'ennemi numéro un du groupe, dans ce morceau, c'est justement l'arme atomique. Un moment déterminant pour l'histoire d'un morceau qui va participer au retentissant succès de l'album Power Slave. Mais c'est pas tout. Outre la réussite commerciale d'un des titres les plus puissants d'Iron Maiden, c'est sur le message qu'il véhicule qu'il est nécessaire de s'arrêter. L'héroïne de cette histoire est on ne peut plus particulière. Il s'agit de l'horloge de la fin du monde, celle qui nous indique le temps qu'il reste avant la catastrophe ultime. Pas de bol. Il ne reste que 2 minutes avant l'apocalypse. Two Minutes to Midnight sort donc dans les bacs en amont du cinquième album studio du groupe britannique. Et le succès est immédiat. Faut dire que le contexte mondial est propice à la composition d'un morceau évoquant l'imminence d'une catastrophe globalisée et terrifiante. En janvier 1984, l'horloge de la fin du monde, un programme conceptuel créé par le BAS, Bulletin of the Atomic Scientists de l'Université de Chicago au début de la guerre froide annonce que la menace de la fin du monde approche. En cause, la politique nucléaire relancée par le président Reagan. Le rebond de la guerre froide est alors on ne peut plus probable. L'horloge affiche alors minuit moins 3. Le groupe, avec Two Minutes to Midnight, se montre plus alarmiste que le BAS. Mais l'Université de Chicago, en 1953, a déjà affiché une heure fatidique de minuit moins 2. Ce fut le cas lorsque des bombes H ont été testées par les États-Unis et l'URSS à quelques mois d'intervalle. Ainsi, le morceau d'Iron Maiden se distingue autant comme un sujet d'actualité que comme un rappel historique. Ce que cherche avant toute chose Dickinson, c'est critiquer l'idéalisation de la chose guerrière, qui déshumanise, à coup d'images sensationnalistes, le sort des vies humaines, et jugé plus tôt. Les aveugles crient « Laissez sortir les créatures ». Nous exposerons les mécréants. Les hurlements napalmés de torches humaines. D'une fête à la belle scène à une heure de grande écoute. Les aveugles. Voilà une image qui renvoie aux spectateurs des horreurs, qui n'en sont même plus émus. On retrouve cette même analogie avec la formule « d'heure à grande écoute ». Et puis le groupe se sert du symbole terrible de Belsen. Une référence directe au camp de Bergen-Belsen, lieu d'horreur de la Seconde Guerre mondiale, pour appuyer son propos. Mais c'est pas tout. Ce que la formation britannique cherche à faire passer dans le même temps, c'est le message que certains se gavent sur le dos de la guerre, tout en méprisant le sort des vies. Alors que les responsables du carnage coupent leur viande et lèchent la sauce, nous huilons les mâchoires de la machine de guerre et la nourrissons de nos bébés. Éloquent, et l'horloge de la fin du monde dans tout ça. Elle est bien évidemment au cœur du morceau, et mieux, de son refrain. Voici ce que les musiciens de Maiden en disent. Minuit moins deux, les aiguilles annonciatrices du jugement dernier. Minuit moins deux, pour tuer l'enfant dans le ventre de sa mère. Ouais, aucun doute. Le titre de Maiden est une chanson protestataire qui cherche à critiquer le business de la guerre et la marche en avant d'un conflit nucléaire qui ne cesse d'approcher. Cela est le fruit du contexte des années 80. Face aux événements, une accélération des tensions entre les États-Unis et l'URSS est à craindre. Le groupe, lui, surfe sur le succès de son single pour faire de Power Slave ou Esclave du pouvoir, une signification qui renvoie à ses engagements politiques, l'une de ses plus grandes réussites. L'album atteint la première place des charts au Royaume-Uni, la 12e. Au Billboard 200 pour un total de ventes dépassant les 4 millions d'exemplaires au bout d'un an. C'est colossal. La tournée qui s'ensuit n'est pas moins impressionnante. Elle est toujours considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de la musique. Le groupe enchaîne en moins de 13 mois 193 dates dans 28 pays différents. Absolument dantesque. Iron Maiden participe notamment à Rock in Rio, un concert devant 500 000 fans. Il partage pour l'occasion la scène avec un autre monument du rock mondial, Queen. Cette incroyable énergie déployée par le groupe va laisser des traces. Alors que s'achève le World Slavery Tour, la bande s'est produite devant un peu moins de 4 millions de spectateurs. Et elle s'est fatiguée. Pour l'anecdote, Bruce Dickinson, le chanteur et leader de Maiden, est si exténué qu'il menace de quitter le groupe si la tournée ne s'arrête pas. Il obtient gain de cause, mais finira tout de même par quitter la formation en 1993. Avant de se raviser pour le plus grand bonheur des fans du groupe 6 ans plus tard. Depuis lors, Iron Maiden continue de sillonner les scènes du monde. L'horloge de la fin du monde, elle, n'a pas achevé sa lente progression vers notre agonie collective. Elle affichait en 2025 23h58 minutes et 31 secondes. En d'autres termes, il nous reste, à date et selon le BAS, moins d'une minute trente avant l'apocalypse. De quoi provoquer une prise de conscience collective? Pas sûr. We'll be right back.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app gratuite RTBF Actu.